Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Vandel.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour Culture Média, vous, auditrices, auditeurs et toute l'équipe qui bâtit avec moi cette émission jour après jour. Au menu, médias et culture au sens large, tous les médias, toutes les formes de culture. Aujourd'hui, on va parler d'un roman et de deux documentaires. Il y aura évidemment le journal des médias avec Charles Decamps, Bertrand Chameroy pour son écran de veille, puis le zapping du lendemain d'Eva Rock. L'info média du jour va se poser cette question basique, mais la réponse ne l'est pas. Comment gérer le port du masque sur les plateaux télé et dans les studios ? Réponse avec un professionnel du spectacle vivant, de l'audiovisuel et du cinéma, mais également avec le directeur des affaires médicales à l'Institut Pasteur, et vous entendrez qu'ils ne sont pas d'accord. YouTube également fait sa rentrée, mais ce n'est pas ce que vous croyez, bien loin des vidéos de chats qui font du skateboard. Le réseau social met en avant les édutubeurs, des vidéos éducatives qui font des centaines de millions de vues. Nous serons avec Justine Rist, c'est la directrice de YouTube France, et Julien Tartaglia, cofondateur de la chaîne Les Bons Profs qui fait des cartons. La Cinémathèque qui met en ce moment à l'honneur Louis de Funès et Gérard Houry dans deux rétrospectives. Nous recevrons sa fille qui est surtout sa scénariste, Danielle Thompson, et il y aura en prime son portrait inattendu par Hélène Manarino. Vous voulez savoir ce que je pense de ce portrait ?
Alors moi il m'épate.
Moi aussi il m'épate. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Culture Média, c'est parti. Bonjour Charles Decamps.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
C'est votre journal des médias. C'est quoi le sommaire du jour ?
Le geste fort de Charlie Hebdo, valeurs actuelles pénalisées, la rentrée chargée de Stéphane Bern, le retour du prince de Bel Air et le choix finalement clairvoyant de TF1.
On commence par les audiences. Qu'est-ce que les Français ont regardé hier soir à la télé ?
Pas de surprise, la stagiaire de France 3 a pris la pole position. Ils étaient 4,5 millions de téléspectateurs hier soir devant la série française, soit 20,7% du public. C'est un score en hausse sur une semaine. TF1 est deuxième avec la suite de la série américaine Big Little Lies. Il y avait 3 épisodes hier soir et les deux premiers affichent une moyenne de 2,5 millions de personnes pour 11,7% de part d'audience et 19,5% sur les femmes de moins de 50 ans. Pourquoi je vous donne tous ces chiffres-là ?
Oui.
Parce qu'en fait, la semaine dernière, lancement timide. Cette semaine, c'est 1,2 million de téléspectateurs en moins, près de 8 points de part d'audience en moins et 11 points sur les femmes.
Voilà, ah oui.
Donc on est quand même sur une petite catastrophe. C'est France 2 qui prend la troisième place. Les pouvoirs du corps humain, eux, ont captivé 2,1 millions de curieux, soit 9,8% du public.
Voilà. Et la stagiaire de France 3, c'est la stagiaire sur France 3. La stagiaire, c'est Michel Bernier.
Absolument.
Culture Média.
Plus sérieusement, on commence ce journal des médias par un échange entre le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti et Sonia Mabrouk hier en direct sur Europe 1.
L'avocat de Charlie Hebdo, Richard Malka, estime que la situation actuelle est pire qu'il y a 5 ans. Voici ce qu'il a dit dans un entretien au Point. Qui aujourd'hui publierait les caricatures de Mahomet ? Quel journal ? Dans quelle pièce ? Quel film ? Quel livre oserait le faire ? Mais il a raison, hein. Personne n'oserait le faire.
Il a raison et je l'ai déjà dit. Je le disais notamment au théâtre, nous avons perdu de notre liberté et il faut veiller à notre liberté, c'est un bien précieux.
Eh bien, Éric Dupond-Moretti avait tort. Quelques heures plus tard, Charlie Hebdo a en effet mis en ligne la une de son numéro de cette semaine. Et on peut justement y apercevoir les caricatures de Mahomet en question. Elles avaient été publiées en 2005 par un journal danois, ce qui avait fait scandale à l'époque. Je rappelle que représenter le prophète est considéré comme un blasphème dans l'islam. En 2006, Charlie Hebdo avait décidé de les republier. Le journal avait alors fait l'objet de menaces de mort. Et 9 ans plus tard, c'est pour venger le prophète que les attentats de janvier 2015 avaient été commis.
Alors pourquoi avoir republié ces dessins ?
Parce que c'est aujourd'hui que s'ouvre le procès des attentats de 2015. La rédaction de l'hebdomadaire estime que ces dessins sont des pièces à conviction puisque ce sont eux qui sont le mobile du crime. Je cite, c'est un devoir d'information qui impose de porter à la connaissance du public ces documents qui ont une valeur aussi bien historique que pénale. C'est ce qu'explique la rédaction dans une lettre ouverte. On nous a souvent demandé, depuis janvier 2015, de produire d'autres caricatures de Mahomet. Nous nous y sommes toujours refusés, non pas que cela soit interdit, la loi nous y autorise, mais parce qu'il fallait une bonne raison de le faire, une raison qui ait un sens et qui apporte quelque chose au débat. Reproduire cette semaine de l'ouverture du procès des attentats de janvier 2015 ces caricatures nous a alors semblé indispensable, poursuit l'équipe du journal satirique.
On en parlait lundi, le magazine Valeurs Actuelles est au cœur d'une polémique après un article raciste sur la députée Danielle Obono.
Un article dans lequel un journaliste qui a signé sous pseudonyme, imagine la vie de la députée si elle était née en Afrique au XVIIIe siècle et où il la dépeint en esclave. Illustration à l'appui. Lundi, le parquet de Paris a ouvert une enquête pour injure à caractère raciste et hier, LCI a décidé d'agir. Car la chaîne emploie Geoffroy Lejeune, le directeur de la rédaction, qui a tenté tant bien que mal tout au long du week-end dernier de défendre l'article en question sans trop y parvenir. En tant que citoyen, je cite, j'estime que ce qu'a fait Valeurs Actuelles est indigne de notre époque. Jusque-là, la présence sur LCI de Geoffroy Lejeune pouvait se justifier dans les débats d'idées où tous les courants s'expriment. Mais cet excès de Valeurs Actuelles contrevient à notre ligne et à nos valeurs. Il ne sera plus chroniqueur sur LCI, a ainsi tranché le patron du groupe TF1, Gilles Pélisson, auprès du journal Le Monde.
Ça, c'était la citation de Pélisson. Alors, cette interdiction d'antenne vaut pour toute la rédaction de Valeurs Actuelles ?
Et non, dans la même interview, Gilles Pélisson indique que d'autres journalistes du magazine continueront d'être accueillis sur les plateaux de LCI. Nous faisons une télévision construite sur le débat d'idées dans le respect et pas une télévision d'opinion à la Fox sur la polémique. Ce parti pris ralentit peut-être la progression d'audience de la chaîne, mais LCI ne dévira pas de cela, assure le patron de TF1, toujours à nos confrères du Monde.
La rentrée de Geoffroy Lejeune s'allège donc, mais pas celle de Stéphane Bern.
Il y a du changement pour l'animateur de France Télévisions. Vous le savez, Philippe Stéphane Bern a fait ses premiers pas sur Europe 1 la semaine dernière avec une nouvelle émission qui s'appelle Historiquement Vôtre. Il l'anime du lundi au vendredi à 16h aux côtés de Mathieu Noël. Il est aussi aux commandes d'une chronique dans la matinale de Mathieu Béliard. Mais ce n'est pas tout. Hier, Stéphane Bern a annoncé le début de sa collaboration avec Paris Match.
J'avais envie, après 32 ans dans le groupe du Figaro, de remettre un peu mon titre en jeu, de me lancer un nouveau défi, de prendre une nouvelle orientation dans ma vie professionnelle. Et ça tombait bien. Il y avait à la fois le changement de radio et puis le changement de médias, de presse écrite aussi. Et j'ai toujours été un lecteur fervent de Paris Match et je suis très heureux de rejoindre cette équipe où il y a des plumes admirables d'hier et d'aujourd'hui.
Cette nouvelle activité s'ajoute donc à la quotidienne d'Europe 1, mais aussi à ses activités télé. Stéphane Bern a tourné dans un téléfilm attendu l'an prochain sur France 3, qui s'appelle « Pour l'honneur d'un fils », et il a beaucoup d'autres projets pour la saison à venir.
Pour la télévision, pas mal de secrets d'histoire qui s'annoncent sur France 3. Quelques émissions aussi sur France 2. Il y aura beaucoup d'Eurovision. J'aurai le plaisir de présenter la... en quelque sorte en route pour l'Eurovision, et puis la grande soirée de retransmission depuis Rotterdam au printemps prochain, mais aussi une escapade viennoise comme chaque année à l'occasion du Nouvel An. Enfin voilà, beaucoup de projets également pour France Télévisions, et j'en suis très heureux.
Nous on rentrait très chargés, effectivement. Les retours de séries se multiplient.
On en parlait il y a quelques jours, et la liste s'allonge. Ce générique, c'est celui du Prince de Bel-Air, la sitcom culte des années 90 qui a lancé la carrière de Will Smith. Et pour fêter les 30 ans de la série, le service de streaming américain HBO Max a décidé d'organiser une émission spéciale.
Alors elle va ressembler à quoi cette émission ?
Alors a priori, à la même chose que l'émission spéciale consacrée au retour de Friends, dont on entend parler depuis plus de 6 mois et qui a été reportée à cause du Covid-19. Toute l'équipe du Prince de Bel-Air devrait donc se retrouver sur un plateau pour discuter de la série, de son impact sur la pop culture et des meilleurs moments en coulisses. Will Smith sera évidemment la partie, tout comme les comédiens qui incarnaient Carlton, Hilary et Ashley Banks, les cousins de Will notamment, seul grand absent évidemment, James Avery, alias Oncle Phil, qui est décédé en 2013.
Et est-ce que la série pourrait être relancée comme par exemple MacGyver ou alors Magnum mais sans moustache ?
Mais il y a justement un projet de reboot organisé par Will Smith et c'est une histoire assez originale. L'année dernière, un fan de la série a tourné une fausse bande-annonce d'une version beaucoup plus sombre du Prince de Bel-Air. En gros, c'est la même histoire mais sans l'aspect comique. La vidéo a rencontré un accueil tellement enthousiaste que Will Smith a décidé d'en faire une véritable série. Il fait actuellement le tour des diffuseurs pour vendre le projet.
Et on termine ce journal avec la décision clairvoyante de TF1.
Le mardi 22 septembre, la Une poursuivra la diffusion de la série américaine Big Little Lies, mais pas en première partie de soirée. Hier, avant de connaître les audiences dont je vous parlais il y a 5 minutes, la chaîne a annoncé sa grille de programme. C'est ce jour-là, donc le mardi 22 septembre, qu'elle lancera la saison 3 de Good Doctor en prime time. La série avec Freddie Highmore va donc remplacer Big Little Lies, qui se retrouve reléguée en deuxième partie de soirée. Les 3 épisodes des aventures des mères de famille californiennes débuteront à 22h50, et les 3 derniers épisodes seront proposés la semaine suivante à la même heure.
Vous voulez dire qu'ils ont anticipé hier, avant même les chiffres d'audience de ce matin, que la série n'allait pas marcher.
Voilà.
Merci beaucoup Charles Decan. On vous retrouve demain pour un nouveau journal des médias. À suivre dans notre info média du jour, tous masqués sur les plateaux télé, c'est la question. Alors que le port du masque est désormais obligatoire en entreprise, qu'en est-il pour les milieux du spectacle qui sont des entreprises ? Jean-Yves Mirski, président de la Fédération des entreprises du spectacle vivant, est enregistré. Et Bruno Owen, le directeur des affaires médicales à l'Institut Pasteur, seront avec nous. À tout de suite.
9h, 11h,
Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
Depuis hier, vous le savez, le masque est devenu obligatoire en entreprise, pas seulement dans la rue, mais qu'en est-il dans les cinémas, dans les théâtres, sur les tournages et sur les plateaux télé? Comment faire pour animer un débat à la radio ou à la télévision tout en étant masqué? Comment faire revenir les gens dans les salles de cinéma et de théâtre s'ils doivent rire ou pleurer derrière des morceaux de tissu? Comment faire répéter des comédiens s'ils doivent se tenir à distance des uns des autres? Comment respecter les mesures sanitaires sans rendre la télévision anxiogène? Que de questions. Pour y répondre, nous sommes avec Jean-Yves Mirsky. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président de la FESAC, c'est la Fédération des entreprises du spectacle vivant, de la musique, de l'audiovisuel et du cinéma. Tout ça face à vous. Bruno Owen, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur des affaires culturelles, hein, des affaires médicales. Pardonnez-moi, j'étais tellement dans la culture et dans Culture Média, vous avez bien fait de m'interrompre. Vous êtes directeur des affaires médicales à l'Institut Pasteur. Petite précision pour démarrer, Jean-Yves Mirsky, qu'est-ce que la FESAC?
Écoutez, la FESAC, c'est l'organisation qui regroupe, comme vous l'avez dit, toutes les organisations du spectacle vivant. Donc, c'est les salles de spectacle, mais c'est aussi les cabarets, c'est aussi toutes ces salles où vont les gens. Et d'autre part, la radio, le cinéma, la télévision, donc toute la chaîne, en fait.
Très, très large périmètre. Mm-hmm. La fédération réunit plus de 30 organisations patronales, c'est-à-dire 3000 entreprises qui emploient plus de 300 000 salariés. Depuis hier, le port du masque est obligatoire en entreprise. Comment on fait si notre entreprise est un plateau de tournage ou une salle de théâtre ou un studio de radio, comme nous sommes ici? Je précise pour les auditeurs qui sont des auditeurs et qui ne nous regardent pas sur europe1.fr que Jean-Yves Mirsky et moi-même ne sommes pas masqués, nous sommes à distance, à 2 mètres l'un de l'autre, et en revanche Bruno Owen est masqué. Juste un mot, Bruno Owen, pourquoi ce choix d'être masqué? C'est pédagogique ou c'est sanitaire?
Oh, c'est pas tant pour me protéger moi, mais que surtout pour montrer que c'est utile. Et si vous m'en laissez le temps, je vous expliquerai pourquoi, comment le masque est vraiment utile dans la prévention de cette maladie.
Non seulement on vous en laisse le temps, mais vous êtes venu pour ça et on a hâte de vous entendre. D'abord, l'actualité. Vous avez rencontré hier le Premier ministre et la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot. Non pas hier, c'était fin de semaine dernière.
Oui, tout à fait.
Jean-Yves Mirsky, que leur avez-vous demandé et que vous ont-ils répondu?
Eh bien écoutez, ils nous ont annoncé des mesures fortes concernant des aides à nos secteurs, et donc ça, c'est très très positif. La difficulté que nous avons, c'est d'abord comment on va répartir ces aides, c'est assez compliqué bien entendu, et puis surtout, c'est comment les choses vont se passer dans l'avenir, c'est-à-dire que va-t-il se passer avec le masque, avec la distanciation, qui est un énorme problème dans l'État.
C'est ça, que vous ont-ils dit?
Ils nous ont dit qu'il fallait c'est-à-dire à la fois le masque et à la fois la distanciation physique, et c'est là qu'on a un vrai problème. Parce que pourquoi cette double peine finalement? Pourquoi les salles de spectacle seraient les seules où les deux contraintes seraient respectées, dans la mesure où on ne l'a pas du tout dans les transports par exemple? Donc voilà, pour nous c'est une vraie difficulté.
Vous posez une très bonne question et je vais demander à Bruno Owen d'y répondre. Pourquoi deux poids deux mesures?
Alors, je suis pas sûr que je sois très qualifié pour répondre à ces questions. Ce que je peux dire par contre...
Vous avez le droit de dire que vous trouvez ça un peu absurde.
Alors, je vais d'abord dire que le masque est efficace et que son efficacité est probablement permet de s'affranchir dans un certain nombre de situations de l'obligation de distanciation physique. De fait, c'est ce qui se passe déjà dans les transports actuellement, que ce soit le train, le métro. Il y a de nombreux endroits, de nombreux moments où on n'est pas en situation de pouvoir respecter cette distance. Mais heureusement, on a le masque. Et le masque, on a montré qu'il était efficace parce qu'il permet de réduire de façon significative la quantité de virus qui filtre, alors de façon très efficace dans le sens de l'émission, mais de façon également efficace dans le sens de la réception. Et l'autre bonne nouvelle, c'est qu'on a montré que la dose infectante importe en ce qui concerne le risque de développer une infection. Plus la dose de virus qu'on inhale à un moment de la contamination est importante, et plus on a une chance de faire une maladie symptomatique, voire grave. Et inversement, lorsque la dose est faible, ça a été démontré chez l'animal, on fait une maladie ou asymptomatique ou avec très peu de symptômes. Donc le masque comprends. permet
cette réaction. Quand bien même le virus traverse le masque, il n'y a pas la même quantité et donc les conséquences sont évidemment moindres.
Voilà, exactement.
Mais pourquoi faudrait-il porter un masque si on arrive à maintenir la distanciation sociale?
Alors, si on doit choisir entre les deux, moi, je préfère le masque en termes d'efficacité. Pourquoi? Parce que certes, on a montré au début que la transmission se faisait par gouttelettes, c'est-à-dire par l'émission et la transmission des postillons, en gros, pour faire simple. Mais on sait maintenant que la transmission se fait aussi par voie aérienne, c'est-à-dire par des virus qui restent en suspension un certain temps dans l'air et qui ne nécessitent pas une proximité avec un sujet contaminateur. Et donc, c'est pour ça qu'il est plus efficace de porter un masque que de respecter la distanciation.
Un certain temps, c'est combien de temps? C'est quelques minutes, c'est quelques heures ou c'est quelques jours?
Ça dépend de plusieurs facteurs et en particulier de l'endroit où on se trouve. En milieu ouvert et avec circulation d'air, le temps est court, il est peut-être même nul. Par contre, en milieu fermé...
Donc à l'intérieur?
À l'intérieur, avec des renouvellements d'air ou insuffisants ou éventuellement mal connus, on sait que ça peut être quelques heures.
Allez, on va entendre un exemple en plateau de télévision, c'était sur BFM TV il y a quelques jours. Bruce Toussaint et Roselyne Dubois ont fait le test des masques. Écoutez.
Imaginez, avec un masque, on ne peut pas faire une bonne interview masquée.
Compliqué.
Les politiques, dit-il, seront masqués, seront cachés. On fait passer beaucoup de choses par le regard, par les mimiques aussi, sans parler des téléspectateurs sourds et malentendants pour qui on fait des programmes et qui lisent sur les lèvres. On va quand même montrer la démonstration de ce que ça donne en plateau, parce qu'on l'a notre masque. Hein. On le met jusqu'ici.
Alors attendez.
Voilà, déjà c'est magnifique et puis c'est très rassurant. Ce serait une première, hein, si sur les plateaux on se met tous à le porter, ce serait une première dans le monde, même en Chine, au pire de la crise. Ils ne l'ont pas fait tous masqués. Après, vous entendez bien qu'il y a un problème quand même de son, de diction. Il va falloir sacrément articuler si on en arrive là.
Bon, on entend très très bien. Vous entendez ce qu'elle dit?
Oui, on entend bien.
Oui, donc il n'y a pas besoin de faire... Et puis on entend très bien ce que vous dites.
J'espère.
Donc il n'y a pas besoin, du masque. Réaction à ce que vient de dire...
Ça corrobore totalement notre position. C'est-à-dire que oui, au masque, mais pas en même temps que la distanciation physique. Et c'est d'autant plus compliqué pour les salles de spectacle. C'est que les règles sont différentes selon les zones vertes et les zones rouges. Ce qui fait qu'une salle de spectacle qui doit mettre en vente des billets pour dans 2 mois, par exemple, qui est aujourd'hui en zone verte, eh bien si elle passe en zone rouge, je ne vois pas du tout comment ça va se passer.
Sans compter que s'il y a des gens, comme ça se fait souvent, qui viennent à Paris et qui viennent d'une zone dans une autre zone,
oui,
on ne va pas leur demander leur carte d'identité.
Ça nous paraît pas du tout réaliste et ne correspond pas à la vraie vie.
Comment ça se passe en ce moment sur les plateaux télé? On a fait une petite recension, on vous en parle juste après ceci, on marque une pause et on revient avec Bruno Owen, le directeur des affaires médicales à l'Institut Pasteur, et Jean-Yves Mirsky, il est le président de la Fédération des entreprises du spectacle vivant et enregistré. Il est vivant et il est enregistré et nous on est en direct, à tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
On parle du masque ou pas, c'est obligatoire depuis hier dans les entreprises, mais le spectacle, la télévision, la radio sont des entreprises. Faut-il ou non porter le masque pendant les répétitions, certes, mais pendant les directs, pendant les émissions, pendant les talk shows? On en parle avec Jean-Yves Mirsky, vous êtes président de la FESAC, la Fédération des entreprises du spectacle pour faire court, de l'audiovisuel, du cinéma, et Bruno Owen qui est directeur des affaires médicales à l'Institut Pasteur. Si vous nous regardez sur europe1.fr, c'est facile de les départager. Il y en a un qui est masqué, l'autre non. On a fait une recension des émissions télé hier. On a comparé ce qui était comparable. On a regardé les talk shows, ce qu'on appelle l'Access Prime Time. Sur C8, dans Touche pas à mon poste, il y a du public. Mais le public est espacé, il y a des visières en plastique. Et sur le plateau, ils ont mis des plexiglas, comme on trouve ici dans ce studio, pour séparer les chroniqueurs. Dans Quotidien sur TMC, il n'y a pas de public. Ils ont choisi de ne pas avoir de public, qui pénalise un peu. On n'entend pas les rires quand il n'y a pas de public, par exemple. Mais il y a du gel hydroalcoolique en plateau. Et C'est à vous sur France 5, rien de spécial. Ils ont fait comme ils faisaient d'habitude. Que faudrait-il faire, selon vous, Bruno Owen?
En ce qui concerne le
masque. Le public et pas le public, toutes ces précautions prises ou pas sur les plateaux de télévision.
Alors, je pense que la règle générale, c'est que quand on réunit du monde dans un endroit clos, il faut que les personnes qui s'y trouvent portent un masque. Voilà. Donc,
y compris les gens à l'antenne.
Ben alors ça dépend de
la distance.
De la distance et puis du traitement de l'air dans le local où on se trouve.
Alors je peux vous dire, tous les studios télé, il y a une climatisation de fou. Parce que les projecteurs chauffent et donc c'est climatisé, c'est un semi-frigo.
Non, ce n'est pas la température qui compte, c'est le taux de renouvellement d'air.
C'est ce que je veux dire. En tout cas, il y a de l'air brassé. Voilà l'info que je voulais vous donner.
Très bien. Donc, voilà.
Est-ce que ça veut dire que c'est dangereux ou est-ce qu'au contraire, ce n'est pas dangereux parce que l'air est brassé?
Le fait que l'air soit brassé fait qu'il y a effectivement une circulation importante, mais il est renouvelé et donc le temps de persistance dans l'air d'éventuelles particules virales est réduit.
Par rapport à votre profession et aux intérêts que vous défendez, Jean-Yves Mirsky, est-ce que c'est pas anxiogène de voir des animateurs, des présentateurs masqués?
Oui, évidemment, et je crois d'ailleurs que ça ne se fera pas comme ça. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a vraiment de très grandes précautions qui sont prises tout au long de la chaîne, dans les émissions de télé, on le sait. Effectivement, vous avez parlé de l'espacement du public, on fait extrêmement attention. Si je prends le spectacle vivant et la scène, on teste les personnes. Si je prends l'exemple de la danse, par exemple...
Ouais. Parce qu'à la danse, on est obligé d'être collé.
Ben oui, il n'y a pas d'autre solution. Voilà. Ouais. Donc ben là, les gens sont testés tous les deux jours. Et on essaye vraiment de créer des bulles. Ce sont des contraintes, mais ce sont des contraintes nécessaires si on veut que le spectacle continue. On a vu l'attachement du public pendant toute cette période très compliquée. Je crois qu'après, vous allez parler de Funès, les chiffres ont été extraordinaires. Oui. Enfin bon, voilà, les gens sont très attachés à la culture, au spectacle. Donc, il faut trouver un moyen de pouvoir continuer. Donc, il faut s'adapter, il faut les masques le plus souvent possible. Mais c'est vrai que quand on est à l'antenne, quand on est sur scène, là, ce n'est pas possible. Mais en tout cas, pour le public, il n'y a plus de débat.
Et le tournage en extérieur, on peut s'en dispenser ?
Non, non, les équipes techniques ont toutes des masques. Il n'y a que les gens qui sont devant les caméras qui ne sont pas masqués au moment où ils interprètent vraiment les rôles. On les masque pour les répétitions, pour les tests. Non, non, vraiment, toute la chaîne est très, très attentive à tout ça.
Il y a évidemment une dimension économique. On ne serait pas là en train d'en parler si ce n'était que médical. Si on voit bien la récession qui arrive et qui va toucher l'économie mondiale, pas seulement française. Dans les salles de spectacle qui sont dans les zones rouges, le port du masque va être obligatoire. Est-ce que ce n'est pas la double peine pour les professions que vous représentez?
Ah oui, de toute façon, avec, encore une fois, effectivement, avec la distanciation, c'est la double peine. Donc, ce n'est pas réaliste. La triple peine,
puisque
oui.
Puisque la salle remplit moins de la jauge et n'est plus la même. Et ensuite, les gens ont peur de venir.
Alors, les gens ont peur. On a le sentiment quand même que le fait que les gens soient masqués de façon obligatoire dans les salles, finalement, je me demande si ce n'est pas plutôt rassurant pour le public. On voit que les films qui viennent de sortir, là, ont l'air de plutôt très bien marcher.
Tenet, ça a bien marché.
Tenet marche bien. Les films français qui viennent de sortir, les films français qui viennent, oui, donc sont plutôt se portent bien, les chiffres sont très bons. Ouais. Donc il y a peut-être, on va voir, hein, il est encore peut-être un petit peu tôt, mais on a le sentiment que les mesures qui viennent d'être confirmées, d'être prises, sont plutôt bien perçus par le public.
Je ne voudrais pas être un oiseau de mauvais augure, mais on voit des artistes annuler ou reporter leurs tournées les uns après les autres. Julien Doré, M, Patrick Bruel, M Pokora. À quoi ressemblent les réservations de spectacles et les programmations pour la saison prochaine? Est-ce qu'il y a encore des spectacles qui se préparent ou est-ce que tout le monde a remis son survêtement?
Là, pour le coup, on a remis le survêtement parce que là, on a une imprévisibilité totale qui est liée à l'évolution du Covid. On n'a pas du tout de visibilité. C'est un énorme problème, effectivement, pour notre secteur, dans la mesure où les spectacles se préparent un an, voire deux ans à l'avance, les tournées, tout ça. Pour l'instant, tout est à l'arrêt, effectivement.
Je me tourne vers vous, Bruno Owen. Il y a quelque chose qui est très, très inquiétant. C'est que, si j'ai bien compris, le masque nous protège de la maladie. Autrement dit, plus les gens portent bien le masque de manière orthodoxe, plus ça va durer.
Et c'est une très très bonne question et la réponse n'est pas facile. Je suis content que vous me la posiez parce que je vais essayer d'y répondre de la façon la plus claire possible. On dit que les masques chirurgicaux sont surtout efficaces pour protéger de l'émission et moins efficaces pour protéger de la réception. Et le message qui est souvent associé à ça, si tu ne portes pas le masque pour toi, porte-le pour protéger les autres. Ce message est vrai, mais aujourd'hui on peut le compléter, porte-le aussi pour toi-même, parce qu'on a montré que, comme je vous le disais tout à l'heure, le port du masque chirurgical permet, sinon d'annuler complètement, du moins de réduire de façon importante la quantité de virus inhalé. Et on a maintenant des démonstrations chez l'animal et chez l'homme. Je ne vais peut-être pas avoir le temps de vous expliquer ces démonstrations, mais je vous assure qu'on a pu démontrer que quand l'inoculum, la quantité, la dose infectante était réduite, on faisait des formes ou bien asymptomatiques ou bien peu graves. Et il y a une hypothèse qui est en train d'être testée actuellement, que l'explication au fait que, malgré la recrudescence importante du nombre de cas actuellement en France, on n'a pas d'augmentation du nombre d'hospitalisations en général et en réanimation en particulier, que ça pourrait être le bénéfice obtenu du port du masque, parce qu'on a une réduction du risque de faire des formes graves.
Est-ce que j'explique le sens de ma question? Le virus de la grippe circule, tout le monde, ou peu ou prou, a été en contact. Je crois que c'est 70% des gens qui sont en contact chaque année avec le virus de la grippe, et ça ne produit pas des catastrophes comme celle-ci. La catastrophe du Covid vient du fait que ce virus est très très rare, donc il faudrait que chacun ait été en contact à un moment donné avec...
Non, ce n'est pas du fait qu'il est rare.
Je résume à grands traits.
C'est du fait que la population n'est pas immunisée. Donc, voilà. On a une population vierge, comme on dit, sur le plan immunitaire. Et donc, bah, tout personnes en début d'épidémie est virtuellement susceptible de faire la maladie, ce qui n'est pas le cas de la grippe, parce qu'avec le passage itératif de la maladie, il y a une proportion importante de la population qui est protégée.
Mais alors, si on ne trouve pas de vaccin, on en a pour combien de temps ? 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans ?
On va trouver un vaccin, là je suis assez confiant là-dessus, pas demain, hein, ouais. Mais dans les prochains mois. Et dans l'intervalle, je pense qu'effectivement, le port du masque chirurgical assurera, participera de façon efficace au contrôle de la circulation.
J'ai compris
virale.
Tout ça, mais on ne peut pas donner de date.
Sur quoi ?
5 ans, 10 ans, 20 ans ?
Non, un vaccin efficace, accessible à la population, on peut raisonnablement penser que ce sera moins de 5 ans, entre 1 et 5 ans.
On en reparle en 2025, vous viendrez nous voir, Jean-Yves Mirsky. Il n'y a pas que le port du masque. Heureusement, le Premier ministre a fait des annonces qui concernent le secteur du spectacle. Des aides à la hauteur de 432 millions d'euros pour le spectacle vivant. C'est une boîte d'oxygène, c'est suffisant, ça va vous...
Oui, alors, encore une fois, c'est très important parce que ça va faire maintenant près de 6 mois que des salles sont fermées, donc en zéro chiffre d'affaires, ça repart tout doucement. Donc oui, c'est très très important. Il faut simplement que toutes ces mesures aillent dans la durée parce que notre secteur était un des premiers arrêtés et sera probablement le dernier à repartir parce qu'il y a peut-être des salles qui n'ouvriront pas cette année.
Vous êtes retourné au cinéma ou au théâtre depuis ?
Oui. Pas encore au théâtre. J'attends avec impatience de pouvoir le faire. Mais au cinéma, oui, bien sûr.
Et vous-même ?
Oui, absolument.
Jean-Yves Mirsky, le président de la FESAC, la Fédération des entreprises du spectacle vivant, de la musique, de l'audiovisuel et du cinéma, j'ai tout dit. Bruno Hohen, directeur des affaires médicales à l'Institut Pasteur, merci d'avoir été avec nous tous les deux en direct.
Merci.
Culture Média qui continue dans un instant. YouTube qui fait sa rentrée scolaire. Nous sommes avec Justine Rist, elle est directrice manager de la plateforme, et Julien Tartaglia, cofondateur de la chaîne aux presque 1 million d'abonnés, Les Bons Profs. Vous savez ce qu'on trouve maintenant sur YouTube ? C'est pas seulement des chats qui font du canoë-kayak, c'est également des cours de maths. Et ça marche, à tout de suite.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Bondel.
Bonjour Julien Tartaglia.
Bonjour.
Vous êtes le cofondateur de la chaîne YouTube Les Bons Profs, chaîne éducative comme son nom l'indique. Combien d'abonnés, combien de vues ?
Les Bons Profs, c'est 907 000 abonnés et c'est à peu près 185 millions de vidéos vues.
185 millions, bonjour Justine Rist.
Bonjour Philippe.
Merci d'être avec nous. Vous êtes la directrice de YouTube France. Pour vous, le chiffre est encore plus impressionnant. Il y a chaque mois 2 milliards d'utilisateurs connectés sur YouTube, plus d'un quart de la planète. Mais je commence avec vous, Justine, parce qu'à l'occasion de la rentrée, YouTube met en avant les Edutubeurs, 26 chaînes YouTube qui représentent pas moins de 7 millions d'abonnés en France en cumulé. Qui sont ces Edutubeurs ? Est-ce que c'est vous qui avez inventé ce terme ?
Alors déjà, je voulais reprendre un peu votre intro tout à l'heure. C'est vrai qu'on connaît YouTube pour s'informer, pour découvrir, pour se divertir. Mais on connaît aussi vraiment le YouTube pour apprendre. Et on va fêter en fait cette année le 15e anniversaire de l'existence de YouTube. Et désormais, en fait, aujourd'hui, quand vous allez sur la plateforme, vous trouvez des contenus très exigeants, notamment autour du savoir. Et notamment en France, on se distingue avec ces edutubeurs, donc ce mix entre éducation et youtubeurs d'une exceptionnelle richesse. Donc on en a sélectionné, nous, 26 pour faire ce petit carnet de rentrée. Ouais. On les a sélectionnés parce que, d'abord, ce sont soit des enseignants, des professeurs qui ont lancé leur chaîne YouTube, soit des passionnés qui ont une thématique spécialisée et qui veulent transmettre ce savoir. On les a choisis parce qu'ils couvrent toutes les grandes thématiques du collège à l'université. Et c'était pour apporter un peu notre pierre à l'édifice de cette rentrée un peu complexe pour les profs, pour les parents, pour les étudiants et les élèves.
Alors on va les détailler, on va citer les 26. Julien Tartaglia, vous avez créé en 2011 Les Bons Profs, chaîne YouTube, vous l'avez dit, qui compte plus de 900 000 abonnés. On trouve quoi sur Les Bons Profs ?
Sur Les Bons Profs, nous, on propose essentiellement des rappels de cours en vidéo. Donc, c'est un format assez spécifique, hein, pour le coup. C'est un format, nous, on l'appelle format YouTube. Hein. Mm-hmm. Donc, évidemment, on ne refait pas le cours en entier comme en classe. Ça n'a pas de sens. Mais on est sur un format plus proche des standards qu'on peut trouver sur les autres vidéos. Des formats assez courts, 5 minutes, synthétiques, très structurés. Et on trouve donc des rappels de cours, des corrections d'exercices également. Et puis on propose aussi des vidéos qui ne sont pas de cours, mais qui sont liées à la scolarité. Donc pas mal de choses aussi sur l'orientation, sur Parcoursup, parce que c'est des vrais thèmes qui aussi intéressent les élèves et leurs parents.
Alors j'ai regardé évidemment la chaîne Les Bons Profs. La deuxième vidéo la plus vue est intitulée, je vais arriver à le dire, Les 8 étapes de la méiose. C'est quoi la méiose, vous vous souvenez?
C'est quoi la méiose?
Vous vous souvenez ou pas?
La méiose, oui, parce que je connais la vidéo. la méiose, bah oui, c'est... Alors la méiose, c'est très intéressant. Parce que c'est vraiment un sujet qui est en classe de terminale.
C'est... Oui, pardon. On va l'entendre, c'est de la SVT. La méiose, c'est en quelque sorte la division cellulaire. Ouais. Et pour tous les grincheux qui pensent qu'on n'apprend rien au niveau bac, voici le début du cours.
L'objectif est de résumer les trucs et astuces pour que tu puisses résumer le jour du bac 8 étapes de la méiose sur 8 schémas différents. Alors, on part ici avec une prophase 1. Tu sais qu'en prophase 1... les chromosomes s'individualisent, l'ADN se compacte, en chromosomes en l'occurrence. On a alors des paires de chromosomes, 10 paires d'homologues ou bivalents qui vont s'apparier, s'assembler.
Alors on est tutoyé, ça dure 6 minutes 25, ouais. Plus d'1,1 million de vues, c'est vraiment impressionnant. Juliette Rist, comment expliquez-vous ces très bons scores? Question que je déteste, mais là je la pose, est-ce que vous avez été surprise par ces excellents scores?
Maintenant, en fait, c'est des tendances qu'on voit depuis déjà plusieurs années. L'année dernière, au moment du bac, je dis l'année dernière parce que cette année, il n'y a pas eu un bac vraiment dans les règles, exactement. On a eu 400% d'augmentation de tous ces contenus liés à la révision des grands principes de philo, de bio, de maths. Donc, c'est vraiment une tendance qu'on voit. Et en fait, avec le confinement, on a vu une accélération de cet engouement. Et nous, ce qu'on a un peu observé, c'est côté enseignant, déjà le phénomène de professeurs qui ont recours à YouTube pour aller compléter, parce qu'il s'agit vraiment là de venir compléter ce qui se passe en classe. Mmh. On vient pas du tout, évidemment, remplacer le moment de pédagogie très académique à l'intérieur de la classe ou de l'université, mais compléter. Donc les profs qui de plus en plus joignaient à leurs cours, et notamment en télé-école, des petites vidéos à regarder pour les élèves, et puis les profs qui se lancent, quoi. Donc c'est un phénomène qui vraiment est de plus en plus croissant, et il y a déjà ce réflexe YouTube depuis pas mal de temps quand même côté professeur.
Et ce qui est vraiment réjouissant, pardon de cet avis personnel, c'est que ça marche. Vous êtes les bons profs, Julien Tartagliano, on a fait les bons élèves, on a regardé vos vidéos. Exemple, un cours avec une prof de lettres devant un tableau, on l'écoute.
On peut donc rapprocher la séduction de la persuasion. Vous vous rappelez peut-être, vous avez dû voir ce terme en première, que la persuasion, c'est le fait d'argumenter en jouant sur les sentiments, sur les émotions de l'auditeur ou du lecteur. Et cela s'oppose à la conviction, au fait de convaincre, où là, on en appelle à la raison.
Pourquoi je passe cet extrait? Parce qu'on a l'impression d'habitude, les youtubeurs, c'est des gens qui sont séduisants, ils veulent nous persuader, ils ont de l'humour, ils passent des émotions. Or, vos vidéos à vous ressemblent vraiment à des cours, comme disait la prof, essayer de convaincre les élèves. C'est ça votre valeur ajoutée?
Nous, ce sont effectivement des vidéos faites avec des profs de collège et de lycée. Et clairement, ils ne sont pas dans une idée, dans une démarche de faire du YouTube, comme effectivement les youtubeurs qu'on connaît.
Elle va être contente, Justine Rist, vous êtes d'accord avec lui? Ils font du YouTube, mais qui n'est pas du YouTube? Ça vous fait plaisir d'entendre ça, Justine?
Il y a plein de YouTube.
Non, mais je pense que là, ce qu'on veut dire, là, c'est qu'on est dans une tonalité différente de ce qui peut être ce qu'un professeur va faire dans une classe. Ouais. C'est des formats plus courts, des formats qui sont vachement plus interactifs, avec effectivement le tutoiement, avec peut-être un montage plus rapide, plus soutenu. C'est ça, en fait, les codes YouTube.
Exactement. Et là, ce sont des gens devant des tableaux, et pourtant, c'est passionnant, et j'en ai vu d'autres. On va continuer à détailler, on va d'ailleurs détailler les 26 chaînes YouTube, pas toutes, vous restez avec nous. Julien Tartaglia, je ne me trompe pas sur votre nom, c'est les bons profs. Et puis Justine Rist, la directrice de YouTube France, à tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
EduTuber, c'est la contraction de éducation et de YouTuber. C'est une tendance qui cartonne en ce moment sur YouTube. 26 chaînes qui représentent 7 millions d'abonnements. 26 chaînes dédiées à l'éducation sous toutes ses formes. Nous sommes avec Justine Rist, la directrice de YouTube France, et Julien Tartaglia qui a créé le site Les Bons Profs. Justine Rist, à part Les Bons Profs, qu'est-ce qu'on trouve d'autre parmi vos 26 chaînes d'EduTubeurs? Sans tout citer, hein, mais...
Ouais, alors moi je peux vous citer, il y a une chaîne qui s'appelle Les Revues du Monde, fait par une jeune femme qui s'appelle Charlie Danger, qui est une chaîne d'histoire et d'archéologie qui est géniale. Mm-hmm. Il y a Jamy, vous savez Jamy, l'animateur iconique de C'est pas sorcier, voilà, il a lancé sa chaîne pendant le confinement et elle dépasse les 12 millions de vues, c'est un carton absolu.
580 000 abonnés pour la chaîne de Jamy.
Ouais.
Et une troisième, allez-y.
Ouais, en fait, il a déjà dépassé les 600 000 maintenant.
Ah, d'accord.
Troisième, Monsieur Phi, c'est un docteur en philosophie. Et il est génial parce qu'il vulgarise la philosophie, les grandes notions de philo de manière hyper, hyper accessible.
Il y a aussi Hugo Décrypte qu'on connaît bien ici. 105 millions de vues, bien 912 sûr. 000 abonnés. En maths, un truc qui cartonne, énorme succès. Yvan Monca, 626 000 abonnés. Je ne pensais pas que les gens allaient autant s'intéresser aux mathématiques. 130 millions de vues. Il y a même de la géopolitique avec Mister Geopolitics. 4 millions de vues. Vous pouvez le définir en un mot?
Ben c'est ça, en fait, il va reprendre les grands sujets géopolitiques, mais de l'actualité, et puis il va les décrypter, il va les analyser, et donc ben, quand on est en terminale et qu'on a choisi, parce que vous savez, maintenant, il y a des options, des spécialités, options géopolitiques, ben, c'est génial, j'ai exactement le cas à la maison, et c'est une chaîne qui nous sert tous les jours, avec mon fils aîné.
On va écouter un lancement de sujet, des pays piégés par leurs ressources.
J'imagine qu'un grand nombre d'entre vous a déjà joué à un jeu vidéo de stratégie du type Age of Empire. Le but est de développer une civilisation en partant de rien, un territoire vierge où il faut commencer par ramasser des ressources pour pouvoir ensuite évoluer. On retrouve cette fameuse barre qui indique combien de bois vous avez coupé, combien de nourriture vous avez amassé et de combien d'or et de minerais vous disposez. Dans le jeu, on est amené à penser que plus on a de ressources sur son territoire, plus on a de chances de se développer. Ce qui est intéressant, c'est que dans la réalité, pour certains pays, c'est le cas contraire qui se passe. Ce sont ceux qui ont le plus de ressources, qui ont le plus de difficultés à se développer. On va découvrir pourquoi, ensemble, en analysant un phénomène que l'on appelle le syndrome hollandais.
J'arrête ici le suspense. Allez voir, c'est absolument passionnant. J'ai découvert ce qu'était le syndrome hollandais et ça fait comprendre plein de choses sur le monde moderne et j'en rajoute pas. C'est plus qu'une chaîne, les bons profs, Julien Tartaglia. Oui. C'est également une entreprise. À la base, vous êtes prof ou pas du tout ?
Non, moi, je suis éditeur de contenu pédagogique. D'accord. Donc, je travaille avec des professeurs depuis une quinzaine d'années pour produire des contenus.
Mais les gens qu'on voit sont des professeurs.
Ouais.
Question à Justine Rist. Le fact-checking, c'est très important. Comment vous assurez que ce contenu, entre guillemets, amateur, est fiable ?
En fait, ce sont les créateurs eux-mêmes, les enseignants, les profs qui font ce travail de recherche, de contre-recherche, de vérification. Et puis ensuite, d'ailleurs, souvent, d'une vidéo à l'autre, ils peuvent apporter des modifications. Ils échangent avec la communauté qui peuvent continuer d'enrichir, de creuser leur analyse, voire parfois de les corriger. En fait, les communautés des abonnés sur YouTube, elle est hyper exigeante. Mmh. Donc ça se fait naturellement, directement avec les auteurs de ces chaînes.
Et c'est comme sur Wikipédia, dès qu'il y a un bug, il est tout de suite corrigé avec vous recevez 200, un shitstorm, comme on dit.
Exactement.
Combien êtes-vous chez les bons profs? Combien de profs?
Les bons profs, c'est une cinquantaine de profs.
Ouais.
Du collège au lycée, de toutes les matières.
D'accord.
J'ai perdu ma voix.
Ouais, vous avez perdu votre... On va vous apporter un verre d'eau. Il y a également Justine Rist, il y a également Lumni dans la liste. Lumni, qui est le programme éducatif de France Télé. C'était un coup d'essai ou au contraire, vous souhaitez ouvrir des passerelles avec le monde de la télé?
En fait, Lumni avait déjà été partenaire de ce qu'on a fait pendant le confinement qui s'appelait Apprendre à la maison. On a créé tout un portail, un mini-site qui rassemblait toutes les ressources compléments de l'école pour les familles des enfants de primaire et puis ensuite les étudiants et les élèves. Et Lumni, comme Arte ou comme Bayard, étaient partenaires de cette initiative. Et après, clairement, ouais, en fait, des ponts avec la télévision, on en fait plein. Des chaînes comme Lumni, le groupe France Télévisions, Arte, je le recitais, ont énormément de contenu sur YouTube et viennent chercher là des cibles, des audiences plus jeunes, plus internationales, viennent apporter des contenus différents de ce qu'on va trouver à l'antenne.
Julien Tartaglia, c'est quoi le modèle économique des bons profs? Est-ce que les profs sont payés?
Les profs sont payés pour le travail important qu'ils réalisent.
Voilà, et avec quel revenu vous les payez?
Et nous, en fait, on développe à côté un site sur lequel on trouve davantage de contenu avec des fiches, des exercices, des programmes de révision. Et c'est un site qui est disponible par abonnement. Et voilà le modèle économique.
Là, c'est par abonnement.
Ouais.
Parce que parfois sur YouTube, la vidéo commence et puis ça s'arrête. Et ça nous dit, si vous voulez voir la suite, il faut payer.
Pas sur nos vidéos à nous. En revanche, on a plus de vidéos sur notre site, en particulier des corrections d'exercices qui sont vraiment utiles pour les
mais
élèves.
Mais ça n'a pas plu à tout le monde.
Mais je comprends, mais à la fois, on a mis beaucoup de choses disponibles. Ça a aidé énormément d'élèves à se sentir mieux en classe, à réussir le bac. Mais évidemment, nous, derrière, on est obligé d'avoir un modèle économique pour pouvoir le faire.
D'accord. Et est-ce que vous êtes rémunéré par YouTube? Je ne connais pas du tout le modèle économique quand on a une chaîne.
Oui, on est rémunéré par YouTube. Ce n'est pas un modèle économique pour nous. Ça permet effectivement d'assurer un peu de production. Mais effectivement, il y a une rémunération classique, comme pour tous les youtubeurs.
Attention, on va faire comme si Justine Rhys ne vous écoutait pas.
Le modèle économique.
Oui, il reste 30 secondes, je vais savoir, est-ce que vous pourriez changer de plateforme? Est-ce que vous pourriez aller sur TikTok, par exemple, ou Instagram?
Si on le faisait, il faudrait faire complètement différent. C'est-à-dire qu'on ne pourrait pas reproduire la même chose que sur YouTube, sur TikTok, c'est un autre format.
Justine Rhys voulait dire quelque chose sur le modèle économique et on terminera par
ça. Oui, le modèle économique de YouTube, c'est la, c'est la publicité. Mmh. On reverse plus de la moitié de nos revenus à ses auteurs, à ses créateurs de chaînes. Et l'année dernière, c'est plus d'un demi-milliard de revenus, million, en France, un demi-million qui a été reversé directement à tous ces créateurs. Donc voilà, c'est vraiment ça, cette base et cette rémunération directe.
Tous les créateurs français ou simplement français. Les créateurs de les youtubeurs
français les créateurs français
et la part du, et la part des youtubeurs c'est quoi c'est marginal ou c'est quand même important?
En fait, ça dépend. Oui, c'est quand même important. Et puis, c'est ensuite variable par rapport au nombre de vues qu'ils ont fait.
Merci beaucoup, Justine Rhys. Je rappelle que vous êtes la directrice de YouTube France. Et merci à Julien Tartaglia, Les Bons Profs. C'est disponible sur YouTube et plein d'autres choses encore. Merci d'avoir été avec nous en direct. Culture Média continue. Il y aura le rappel des titres de 10h. Et puis ensuite, Eva Rock pour le zapping du lendemain bucolique aujourd'hui. Bertrand Chameroy pour son écran de veille spécial Tour de France. Donc, non moins bucolique, quoique montagnard. La scénariste et réalisatrice Danielle Thompson viendra nous rejoindre pour une grande rétrospective à la Cinémathèque française consacrée à son papa, le réalisateur Gérard Rouy. C'est pas seulement son papa, elle était aussi sa scénariste. On n'est pas là pour raconter des sagas familiales. Et puis dans les indispensables, une histoire d'héritage, tiens, et des légendes du cinéma. À tout de suite.
Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.